Félicity et moi-même avons maintenant le plaisir d'accueillir Alexandre Girard Muscagori, qui est élève conservateur. Donc, c'est le concours, un des concours les plus difficiles en France, quand on va avoir le concours de l'Institut national du patrimoine, donc on peut déjà le saluer. Élève conservateur spécialité musée et conservateur d'État, Alexandre Girard Muscagori est diplômé en plus du deuxième cycle de l'École du Louvre, parcours recherche en histoire de l'art, et de l'ESSEC, qui a fait un master en sciences du management. Donc Alexandre revient tout juste, j'ai vu, de New York. Il a monté une exposition au Met qui s'appelle « On the Shores of the Sahel, Art and Empire of the Western Sudan ». J'imagine avec Yael Biro qui était... Et également, Alexandre, vous avez travaillé à Lyon, au Musée des Confluences, où vous avez monté l'exposition de masques venant du Nigeria. Donc, nous avons un spécialiste de la question devant nous. Alexandre, vous avez également réalisé un mémoire de recherche soutenu en 2015 sous la direction de Dominique Jarassé, consacré aux cadeaux diplomatiques offerts par les chefs d'État africains au président français de la Ve République. Et à l'issue de ce mémoire, vous avez également publié un article dans les cahiers de l'École du Louvre, les régalias du président autour des cadeaux diplomatiques ivoiriens de Valéry Giscard d'Estaing. Et cet article a reçu le prix des publications 2018 du musée du Quai Branly Jacques Chirac. Et donc c'est un honneur pour nous de vous écouter ici dans cet atelier translocation sur une communication qui s'intitule « Entre Trésor et Camelot ». Itinéraire des cadeaux diplomatiques africains en France sous la Ve République. Merci Alexandre.
Merci beaucoup Léa pour cette introduction. Merci Félicity pour l'invitation. Et je suis également très heureux d'intervenir aujourd'hui avec Marianne. Et je pense qu'on va pouvoir trouver un certain nombre de points communs, de problématiques communes à nos deux interventions. Je souhaitais débuter cette communication en vous présentant ce document qui est conservé aux archives, aux archives nationales à Pierrefitte-sur-Seine et qui débute ainsi. Un tapis en peau de chèvre et 6 poufs assortis, un mannequin Touareg habillé dans un coffret en peau de serpent, une statuette en argent Touareg, 2 portefeuilles en peau de serpent, un album de timbre, un coupe-papier en or, un poignard de bras, 2 takuba, une selle de chameau, un ensemble à houssard, un kunta, un terra-terra, une paire de samara, un porte-monnaie nomade, un bonnet, un tablier en cuir. Il ne s'agit ni ici de l'inventaire après décès d'un ancien administrateur colonial, ni du produit de collecte d'une mission ethnographique au Sahel, mais bien de l'ensemble des cadeaux qui ont été offerts à Georges Pompidou au palais présidentiel de Niamey lors de son voyage officiel au Niger en 1972. Cette liste, qui est établie par le service de sécurité de l'Élysée, reflète bien la quantité des objets qui ont été amassés par les chefs d'État français lors de leurs tournées africaines. Rarement pris en compte dans les études qui portent sur la constitution des collections africaines en Europe, le transfert d'artefacts de l'Afrique vers l'Europe par le biais des voyages diplomatiques a pourtant pris des proportions significatives au cours du XXe siècle, sous l'effet d'une facilité de voyage accrue, de la multiplication des rendez-vous internationaux. On voit que la Ve République coïncide avec une très forte intensification des déplacements de chefs d'État français vers l'Afrique subsaharienne, et en particulier ce que Jacques Foccart appelait le précaré, donc les pays amis de la France, Sénégal, Côte d'Ivoire, Cameroun, Gabon, etc. Alors vous voyez que le général de Gaulle n'a réalisé entre 59 et 69 qu'un seul séjour dans un État indépendant, en Éthiopie. Mais Georges Pompidou effectuera 3 tournées sur le continent en visitant 10 pays. Valéry Giscard d'Estaing, quant à lui, se rendra dans 9 États au cours de 7 voyages. Mais c'est surtout à partir de François Mitterrand que les voyages s'intensifient. Entre 82 et 90, François Mitterrand visitera 18 pays et Jacques Chirac, son successeur, se rendra dans 16 États différents au cours de 12 déplacements. Donc vous voyez vraiment une très nette intensification. Et donc ces voyages diplomatiques ainsi que la réception d'officiels à l'Élysée et les sommets internationaux ont amené à la constitution d'un corpus très conséquent d'objets en France. À titre d'exemple, le musée du Septennat, qui conserve l'essentiel des cadeaux diplomatiques offerts à François Mitterrand, répertorie dans ses inventaires 390 objets en provenance de l'Afrique subsaharienne. Et au musée du président Jacques Chirac, à Saran, on trouve 461 pièces également d'Afrique subsaharienne. Alors c'est des objets qui peuvent sembler anecdotiques de prime abord, mais qui en réalité, selon moi, constituent de précieux documents pour appréhender la relation des États postcoloniaux à l'histoire, au patrimoine, à ce qu'ils considéraient comme la création artistique nationale. Ces objets sont rarement choisis au hasard et sont fortement investis par le donateur, ce dont témoigne aussi bien le choix iconographique, qui va refléter des processus de mise en image assez passionnants à décrypter, que les stratégies esthétiques et discursives qui sont déployées pour conférer de la valeur à ces présents. Pourtant, une fois l'acte d'échange achevé, c'est ce que je vais essayer de démontrer aujourd'hui, ces présents vont se heurter à une réception médiatique et institutionnelle assez ambivalente en France, qui va osciller entre mépris et amusement pour ce type de production, et qui va aboutir à une déconsidération assez générale de ces artefacts. Ils sont assez peu visibles, ils sont souvent considérés comme des pièces inauthentiques et dépourvues de toute valeur et de tout intérêt artistique. Donc les cadeaux vont connaître des itinéraires assez compliqués et une patrimonialisation assez complexe. Alors, lorsqu'on pense aux cadeaux de chefs d'État africains, la première image qui surgit généralement est digne d'une caricature du canard enchaîné. Donc on pense à de l'or, de l'ivoire, des diamants. En fait, c'est une des réflexions à laquelle j'ai eu droit, à laquelle j'ai toujours droit. As-tu retrouvé le diamant de Bokassa ? Voilà. Donc, pour rappel, le 10 octobre 1979, le célèbre journal satirique révèle qu'en avril 1973, lors d'un séjour en Centrafrique, Valéry Giscard d'Estaing, alors ministre des Finances, avait reçu une plaquette de diamants de 30 carats des mains de Jean Bedel Bokassa, de même que ses deux cousins. Je reviendrai plus en détail sur l'affaire dite des diamants de Bokassa, qui a largement entaché le mandat de Valéry Giscard d'Estaing. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette affaire a contribué, à mon sens, à doter les présents africains d'un caractère un peu sulfureux dans l'imaginaire collectif, qui sont souvent, décrits comme les symboles des pratiques corruptives des gouvernants africains. Pourtant, il n'y a aucun diamant dans le corpus de 300 cadeaux présidentiels que j'ai constitués, mais des objets dont la grande variété est à l'image de leur provenance assez divers. Donc, aux côtés des présents classiques qui sont conformes aux traditions protocolaires, comme les photographies signées, les médailles commémoratives, les assiettes armoriées ou les objets utilitaires, on observe des typologies plus intéressantes, comme les insignes de pouvoir qui arrivent en grand nombre. Je vous montre ici un ensemble de regalia baoulés offerts à François Mitterrand, mais on va trouver des sabres d'apparat, des cannes de chef qui participent d'une forme de récupération politique des symboles du pouvoir traditionnel. On va trouver également énormément de trophées et de naturalia, des paires de défense au tapis en peau de zèbre. Donc ces trophées forment le pendant inanimé des animaux vivants qui ont été offerts en grand nombre depuis la plus haute antiquité aux puissants. Et cette présence tend évidemment à diminuer après le mandat de François Mitterrand en raison d'un contexte international beaucoup, beaucoup moins favorable à la circulation des espèces protégées. Autre ensemble d'objets très présents sont les textiles et les vêtements, avec en premier lieu les pagnes commémoratifs aux effigies des présidents, également beaucoup de tissus traditionnels qui sont rejoints par tout un ensemble de portraits assez savoureux de chefs d'État qui vont arborer les habits traditionnels, qui signalent un peu, selon moi, une volonté d'assimiler le président français à la communauté du pays en question. Mais l'essentiel du corpus est composé de statuaires, donc de sculptures en ronde bosse. De façon intéressante, on note la part réduite qui est occupée par les formes classiques des arts africains. Les masques et la statuaire rituelle qu'on pourrait retrouver au musée du Quai Branly. Il n'y a même aucun faux, entre guillemets, ou de copie qui chercherait à imiter vraiment des pièces qui ont été utilisées dans un cadre utilitaire en Afrique. On a principalement beaucoup d'images génériques du continent africain, des représentations de la faune sauvage, des images archétypales de la vie villageoise, avec des chasseurs, des maternités, des porteuses de coupes, et également l'incarnation d'idéaux ou de valeurs morales, comme la famille, la paix ou le soutien communautaire. La diversité des contextes d'approvisionnement est à l'image des cadeaux. On a une grande partie des présents qui relèvent qui montre une grande proximité avec les souvenirs qui sont vendus aux touristes européens ou aux classes moyennes et à la bourgeoisie africaine, dans des contextes plus ou moins sophistiqués, des galeries peut-être sur le modèle de Joseph Murumbi, mais également des étals touristiques. Mais on a également des objets qui vont qui sont directement commandés à des créateurs spécifiques. Je vous montre ici ces deux tabourets camerounais qui sont l'œuvre de l'artiste perlière Valentine Djoudje, qui ont été offerts par Paul Biya à Jacques Chirac en 1989. Et vous voyez que sur l'assise, on a cette inscription « Vive l'amitié franco-camerounaise » avec deux drapeaux entrelacés. Enfin, un corpus plus restreint de présents relève plutôt des circuits de l'art académique ou officiel, même si le terme n'est pas forcément très approprié. Je vous montre l'exemple le plus connu, celui des tapisseries des manufactures nationales des arts décoratifs, qui ont été fondées en 1966 à Thiès par Léopold Sédar Senghor, et dont une part importante de la production va servir à nourrir, à accompagner la diplomatie artistique du pays. Avec par exemple ici donc l'exemple des tapisseries qui ont été offertes à François Mitterrand, une très belle tapisserie de Jacob Yacouba dont les cartons sont signés Jacob Yacouba et Amadou Sow. Les deux œuvres sont conservées au musée du Septennat. Alors l'iconographie des présents n'est pas non plus laissée au hasard. Depuis les années 1980, on voit un courant très dynamique dans les études africaines qui s'est intéressé à l'usage des images par les nouveaux États postcoloniaux afin de consolider des nations un peu instables. Et des timbres-poste aux pagnes commémoratifs, en passant par les monuments publics, on voit que, des chercheurs ont vraiment étudié les processus de recyclage des symboles, l'instrumentalisation des mémoires et des patrimoines locaux pour étayer un imaginaire national en pleine construction. Et je pense que certains présents diplomatiques s'inscrivent au cœur de cette problématique, avec au-delà du désir de plaire aux donataires ou de promouvoir la création artistique du pays, des enjeux idéologiques qui sont décelables à l'arrière-plan des présents. C'est une question qui échappe au champ de cette présentation, mais je voulais vous montrer trois exemples avec un certain nombre de présents qui vont promouvoir des héros nationaux. C'est un phénomène qui a bien été illustré à travers l'exemple des timbres-poste, où on voit, une fois les indépendances acquises, les figures d'opposants à la pénétration française ou britannique en Afrique de l'Ouest qui vont se retrouver largement diffusées par le biais de ce support. Mais les cadeaux diplomatiques aussi montrent ce phénomène. En 2011, le président nigérien Jonathan Goodluck a offert à Nicolas Sarkozy, à l'occasion d'un entretien à l'Élysée, une statuette qui représente Ovon Ranwen. Alors, Félicity serait mieux placée que moi pour en parler, mais ce souverain du royaume de Bénin a affronté les troupes britanniques. Et l'œuvre est intéressante parce qu'elle le représente en train de retirer sa couronne à la suite de la défaite, ce qui peut sembler un peu surprenant dans un contexte de relations diplomatiques. En fait, la prise de Benin City au sud-ouest du Nigeria et le sac des palais qui ont eu lieu en 1897 vont vraiment marquer fortement la mémoire à Bénin, mais plus largement au Nigeria. Et à partir, en 1997, à l'occasion du centenaire de cette invasion britannique, on voit se mettre en place un véritable culture du souvenir autour de cette défaite, avec une importante production de bronze contemporain qui vont représenter le souverain prisonnier ou à bord du yacht britannique qui va l'acheminer vers son lieu d'exil. Donc la reddition de Ovon Ranwen s'est affirmée comme un événement vraiment fédérateur qui va marquer la bravoure des habitants du royaume dans leur combat contre l'oppresseur britannique. Pour citer Joseph Nevadomski qui a étudié cette question, Ovon Ranwen est désormais une image patriotique de résistance à l'oppression. Un autre phénomène similaire, illustré par cette statuette offerte par Macky Sall, le président sénégalais, à Nicolas Sarkozy, et qui représente la Dior, qui est également un important résistant à la pénétration française, et une figure qu'on trouve largement dans tous les arts sénégalais, des monuments publics à la peinture populaire. Un autre phénomène intéressant, c'est celui de ce qu'on pourrait appeler de réification de filiation imaginaire, où le cadeau diplomatique peut vraiment accompagner des filiations historiques un peu réinventées, en adoptant certains modèles stylistiques et iconographiques étrangers. Donc à nouveau, c'est un petit clin d'œil pour Félicity, pour les recherches de Félicity. Ici, c'est un exemple des cadeaux de la République du Bénin, et non pas du Nigeria, et c'est le point intéressant. Donc les plusieurs présidents du Bénin actuel ont offert des bronzes qui, en fait, reprennent des formes plutôt de Benin City, donc au sud-ouest du Nigeria, ce qui m'a beaucoup interrogé. On ne peut pas écarter l'hypothèse d'un achat fortuit de la part du protocole béninois, puisque ces productions contemporaines de Benin City sont largement diffusées dans toute l'Afrique de l'Ouest. Néanmoins, si on le lit un peu à l'histoire du Bénin, c'est assez intéressant, puisque le territoire de la République populaire du Bénin s'appelait entre 60 et 72 Dahomey, du nom de la colonie française, et le nom va changer en 72 au moment de l'arrivée de Mathieu Kérékou, Mathieu Kérékou va opter pour le toponyme beaucoup plus prestigieux de Bénin, donc en référence à ce royaume du sud-ouest du Nigeria. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on a ces cadeaux qui suggèrent une volonté de capter le prestige attaché à la culture matérielle de Bénin. Vous avez également à côté une tête en bronze, toujours un cadeau béninois, mais qui est une sorte de fusion entre l'art d'Ifé, qui est une ville du sud-ouest du Nigeria également, très connue pour ses têtes naturalistes, et les bronzes de Bénin. Un autre exemple, et à nouveau là on trouve un lien avec la présentation de Marianne, qui est autour de la réinvention des traditions. Beaucoup d'objets ont accompagné donc, des processus de résurgence des traditions culturelles. Le cas le plus emblématique, selon moi, c'est celui du masque d'Emba ou Nimba Baga, qui est une pièce absolument iconique des arts africains, Marianne l'a bien montré, qui adopte donc, la forme d'une figure féminine à la lourde poitrine et qui incarnait en pays Baga, donc, sur le littoral guinéen, l'idéal féminin. Et ce masque sortait à l'occasion de funérailles, de mariages, de récoltes, de semailles. En 58, l'arrivée au pouvoir de Sékou Touré va fortement perturber les structures dites traditionnelles, et le nouveau président va entamer une lutte assez rude contre les pratiques dites fétichistes censées freiner la modernisation du pays. À la chute de Sékou Touré en 84, on voit toutefois un affaiblissement de ce projet culturel autoritaire, et les communautés Baga vont réintroduire ce masque d'Emba qui va sortir à l'occasion de l'arrivée de touristes, mais également d'invités politiques de marque dans les villages Baga. Mais au-delà de ça, on voit que ce masque Baga est totalement récupéré par le gouvernement guinéen. Je vous donne l'exemple, par exemple, du masque offert à Jacques Chirac par Nansana Conté, est présenté, ce masque est présenté comme le symbole de la statuaire guinéenne. Donc, c'est intéressant de voir comment cet objet est soudainement promu comme un symbole national. Donc c'était quelques exemples pour vous montrer en fait, qu'une attention assez fine à chaque objet permet de déceler les différents enjeux qui sont sous-jacents et qui déterminent la sélection des cadeaux. Et ce survol permet de montrer à quel point les objets sont investis symboliquement par les donateurs. Mais c'est un investissement qui se traduit également par une grande attention apportée à la mise en scène et en récit des cadeaux. Alors, les cadeaux diplomatiques africains vont respecter le plus souvent les normes tacites de la diplomatie internationale. Notre perception du cadeau est souvent limitée à la sculpture, mais en réalité, elle s'inscrit dans un ensemble beaucoup plus large qui inclut l'écrin. Vous avez ici une photo, par exemple, d'un cadeau qui a conservé son écrin, un cadeau du Niger. Ça inclut également la plaque commémorative qui vient indiquer la date de remise de ce présent, mais également tout un ensemble de pièces jointes, de documents vraiment essentiels quand ils sont conservés, ce qui est malheureusement pas toujours le cas, des documents informatifs, souvent produits par les services du protocole, et qui fournissent des informations sur la signification de l'objet, qui mettent en récit la sculpture ou le cadeau, enfin, en général. Ce qui, je trouve assez intéressant, au-delà de cela, c'est qu'on a, dans le cas des cadeaux présidentiels africains, on a un souci d'esthétisation des présents assez fort. Depuis une vingtaine d'années, on a de multiples travaux qui se sont intéressés aux métamorphoses des artefacts non occidentaux en Europe. Je pense par exemple à Manuel Valentin, maître de conférence au Musée de l'Homme, qui souligne que les pièces africaines qui sont conservées en Occident ont traversé, au fil de leur circulation, une nébuleuse d'interventions humaines qui vont aboutir à des modifications de leur apparence physique. Dans bien des cas, on va retirer des éléments, des fibres végétales, les pagnes, les patines sacrificielles. On va retirer tous ces éléments pour justement ajuster les sculptures africaines à notre goût, pour les transformer en sculptures. Et ce processus de régression matérielle et esthétique va être compensé par un processus inverse qui consiste à ajouter le socle, à ajouter des produits de restauration, un ensemble d'éléments qui vont parachever la transformation de l'objet en œuvre d'art et parachever son authenticité. Alors, ce constat à l'esprit, il est intéressant de noter que dans le cas de beaucoup d'objets qui ont été offerts, beaucoup d'objets que j'ai étudiés, ont la particularité d'avoir été préalablement mis en scène par le donateur. ce qui va vraiment réduire les possibilités d'intervention finale du dessinataire. C'est un phénomène qu'on pourrait appeler d'esthétisation a priori de l'objet, donc avant même son arrivée en Europe. Et je vous donnerai juste trois exemples rapidement. Le premier dispositif, c'est le socle, évidemment, hein, qui est un élément clé en Europe, en Occident, dans le processus de requalification des objets africains en œuvre d'art. Ça vient isoler l'objet, ça vient le sacraliser. Ça vient également assurer la cohérence du regard, puisque cet élément est appliqué indistinctement à n'importe quel type d'objet, de la cuillère au masque home. Un exemple intéressant, c'est ce signet Chiwara que vous voyez à gauche, qui a été offert par le président malien, à François Mitterrand. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que c'est plus simplement la reproduction d'un masque Chiwara dans sa dimension ethnographique qui est offert, mais la reproduction d'un Chiwara qui a achevé sa métamorphose en œuvre d'art, parce que le socle ici est sculpté avec l'objet, forme une unité. Et on voit également qu'il n'y a pas de trou de fixation pour placer la calotte qui permettait de positionner le masque sur la tête du porteur. Bref, on insiste sur la valeur plastique de l'objet au détriment de sa dimension fonctionnelle. Un autre dispositif très fréquent, c'est celui des cadres vitrines. Vous voyez notamment à droite. C'est un dispositif qu'on retrouve dès les années 70, mais qui va... dans les cadeaux, on retrouve... qui devient très fréquent sous Jacques Chirac et puis sous Nicolas Sarkozy. Un dispositif qui permet d'agencer toute une série de petits éléments dans des compartiments, l'ensemble étant placé sous une plaque de verre, et qui est assez fréquemment utilisé pour les croix nigériennes qui ont été étudiées notamment par Julien Bondaz, dont tu mentionnais les travaux, une pure invention qui permet de mettre en scène l'unité de la nation nigérienne. Et les éléments sont alors souvent disposés sur un fond coloré. C'est une technique qui va être utilisée assez fréquemment par les marchands d'art touristique en Côte d'Ivoire, ça a été bien étudié, pour justement valoriser des souvenirs de faible qualité. Mais c'est également un objet très pratique pour un Européen, puisque ça protège la pièce, mais ça facilite l'accrochage, ça correspond à nos codes et à nos habitudes. Mais dans le cas des cadeaux diplomatiques, le cadre vitrine permet de construire un message en facilitant l'agencement de différents éléments emblématiques à l'image des croix nigériennes qui, comme je l'ai évoqué, représentent ou sont censées représenter l'unité de la nation. Enfin, un dernier dispositif assez surprenant, celui des panoplies. Plusieurs cadeaux de mon corpus, en fait, montrent des objets qui ont été disposés avant même d'être donnés sous la forme de panoplie, qui est un dispositif qu'on connaît bien, hérité des appartements bourgeois et des musées ethnographiques de la fin du XIXe siècle. Alors il est assez délicat d'établir une filiation entre les deux dispositifs, mais on voit en tout cas des enjeux, des mécanismes semblables, la volonté d'exposer la richesse et le contrôle, de témoigner du haut rang du donateur et du donataire, et puis également de créer le désir de plaire à l'œil à travers un dispositif assez théâtral, équilibré, symétrique. Voilà. Cette mise en scène du cadeau, comme je l'évoquais au début, se double d'une mise en discours qui malheureusement nous échappe largement. On sait que les cadeaux étaient, alors je vous montre ces photos-là, on sait que les cadeaux étaient largement commentés au moment de la remise. Malheureusement, on n'a pas accès à ces échanges. Néanmoins, grâce à ces pièces jointes, donc à ces documents qui accompagnent certains cadeaux, on peut avoir un aperçu de la façon dont certains des objets sont présentés. On a un champ lexical mobilisé, enfin du moins dans ce que j'ai pu, les documents que j'ai pu réunir, qui va osciller entre deux pôles principaux, le souvenir et l'œuvre d'art. L'expression souvenir est fréquemment accolée au cadeau. Elle vient insister sur la dimension mémorielle, mnémotechnique du cadeau. Mais on trouve également beaucoup d'œuvres qui sont présentées comme des œuvres d'art dans les textes. Je vous montre l'exemple de ce masque éléphant. C'est un exemple parmi tant d'autres, hein, qui a été offert par Paul Biya, le président camerounais, à Nicolas Sarkozy, et qui est accompagné d'une brochure. Je vous lis la brochure. Il s'agit d'une œuvre d'art sculptée par un artisan camerounais représentant une tête d'éléphant sertie de coris et de pièces de monnaie anciennes. Le descriptif, le symbolisme et la signification de cet objet d'art sont mentionnés dans le document joint. Et le document joint enfin, décrit l'œuvre enfin, ainsi. À travers cette œuvre, le sculpteur a voulu immortaliser la majesté royale dans toute sa splendeur artistique, culturelle et historique. C'est un hymne à la sagesse, à l'équilibre et à la magnificence du roi. Un élément intéressant, c'est que pour asseoir la dimension artistique, il est fréquent que les pièces jointes viennent insister sur les messages, sur le symbolisme dont l'objet est porteur. On retrouve ici un phénomène qui a été bien étudié par Emmanuel Ferréol dans le cas des bronziers de Ouagadougou, qui, pour distinguer leur travail d'une production beaucoup plus commerciale, vont mobiliser souvent les termes « expression », « parole », « message », « dialogue » pour décrire les créations. Pour citer Emmanuel Ferréol, « l'art se caractérise par la réinjection de sens qu'un artisanat impersonnel et purement touristique a perdu. » Donc, cette longue mise en place du cadre de la présentation a pour but vraiment de souligner qu'on n'est pas du tout dans le cas d'objets anecdotiques. En tout cas, ces objets répondent à des enjeux extrêmement complexes qu'il faut suivre assez finement. Et des objets qui sont souvent fortement investis, à la fois symboliquement, mais également esthétiquement. Pourtant, malgré toutes les précautions qui sont prises par les donateurs pour médiatiser la valeur du présent aux yeux du donateur, ils vont connaître souvent une réception bien plus frileuse en France, une fois l'acte de donation achevé. Alors, une fois offert, qu'arrive-t-il à ces objets africains, à ces centaines d'objets africains qui sont ramenés par les chefs d'État français ? En France, à la différence de beaucoup de pays, on n'a pas de cadre réglementaire strict qui définit précisément donc, le sort qui est réservé aux cadeaux diplomatiques à l'issue d'un mandat. Charles de Gaulle, Georges Pompidou vont effectuer plusieurs dons d'objets au profit d'institutions muséales, mais une grande partie des pièces qu'ils ont reçues se sont perdues dans la nature. La situation va changer avec Valéry Giscard d'Estaing. Il explique dans ses mémoires avoir décidé, dès son accession au pouvoir, de remettre à la fin de son mandat l'ensemble des cadeaux. Mais il est certain que l'affaire des diamants de Bokassa a accéléré ce désir de déposer les objets. Et donc une partie importante des objets reçus par Valéry Giscard d'Estaing sont aujourd'hui conservés au Mobilier National. Tous les présidents successifs à la suite de Valéry Giscard d'Estaing vont déposer leurs objets dans des institutions au Mobilier National, en principe, à l'exception donc, de François Mitterrand et Jacques Chirac, qui ont fait le choix de créer des institutions ex nihilo pour conserver ces objets. Le musée du Septennat à Château-Chinon, qui est l'une des institutions créées par François Mitterrand pour conserver ces cadeaux, mais qui conserve l'essentiel des objets africains qui nous intéressent aujourd'hui. Et le musée du président Jacques Chirac, à Saran, qui a ouvert en 2000 au cœur du fief corrézien, donc de l'ancien chef d'État. Cette décision présidentielle d'orienter des cadeaux diplomatiques vers des institutions muséales n'est pas sans conséquences. Dans le cas de François Mitterrand ou Jacques Chirac, elle va aboutir à un phénomène de patrimonialisation contrainte ou sous-contrainte de ces objets, puisqu'ils ne vont pas subir, ils ne vont pas entrer dans le processus classique de la chaîne patrimoniale qui mènerait à la sélection de l'œuvre rare, l'œuvre remarquable, l'œuvre cohérente avec un projet scientifique ou culturel beaucoup plus large. Les institutions vont être vraiment dans l'obligation d'intégrer et puis ensuite de valoriser ce patrimoine. Et c'est pas sans générer un certain malaise, en particulier de la part de musées qui n'étaient pas destinés initialement à prendre en charge ce type de collection. Je vous montrerai deux exemples, celui des régalias offerts à Caen, offerts à Valéry Giscard d'Estaing par Félix Houphouët-Boigny, qui ont été donnés par Valéry Giscard d'Estaing au Musée des Arts Africains et Océaniens. Et ces objets sont passés devant le comité technique du musée, qui était chargé d'émettre un avis consultatif sur les acquisitions de l'institution et qui comptait parmi ses membres Michel Léris, Jean Guiard ou Claude Lévi-Strauss. Et le compte-rendu de la séance est assez savoureux et rend parfaitement compte donc, des sentiments ambigus de l'institution à l'égard de ces objets. Je cite « À la question de Michel Léris de savoir s'il est protocolairement possible de refuser, le directeur répond que cela lui paraît très difficile, les musées servant en l'occurrence de garde-meubles. On peut bien entendu mettre les objets en réserve quand ils ne sont pas exposables. Il serait en tout cas franchement inopportun de les mettre en dépôt dans un musée de province alors qu'ils ne sont pas dignes d'un musée national. Donc la proposition ici formulée de les refuser ou à défaut de les mettre au rebut dans les réserves d'un musée de province montre bien la difficulté pour cet ensemble d'objets de trouver sa place dans une institution qui, depuis 1960, avait pris le tournant de la métamorphose en musée d'art. 20 ans plus tard, En 2004, on a un même malaise qui transparaît dans une note interne de Germain Viat, qui était alors en charge du projet muséologique du musée du Quai Branly, une note qui est adressée à la direction, à la suite de la décision de Jacques Chirac de faire don d'une tente Touareg et de l'intégralité de son mobilier, soit plus d'une centaine d'éléments. Vous avez ici une image de la tente, assez volumineuse. Donc Germain Viat écrit, je cite, « J'apprends que nous devons intégrer ce cadeau fait au président. Est-ce vrai? Cela pose de vrais problèmes. Coûts, transport, surface de stockage, inutilité, et devrait passer devant notre comité. Ne faut-il pas plutôt l'orienter vers le Muséum national d'histoire naturelle? C'est un bel exemple pour une réflexion sur l'écologie. » Donc la réponse de la direction insiste sur le fait que le président y tient beaucoup et que les cadeaux d'État ne peuvent pas être refusés. Cet échange reprend l'essentiel des enjeux qui sous-tendaient la question de Michel Leiris en 1978, à savoir l'incapacité de l'institution muséale à s'opposer au fait du prince, et surtout une dévaluation de l'objet, ici qualifié d'inutile. Alors ces deux exemples permettent de saisir la délicate intégration des cadeaux africains dans le cadre d'institutions qui vont chercher, par le biais des productions artistiques, à illustrer les cultures non européennes. C'est une difficulté qui s'explique, selon moi, par deux a priori, qui vont vraiment limiter la lecture qu'on peut faire de ces objets. D'une part, la plupart des cadeaux ne sont pas perçus comme valables d'un point de vue ethnographique. Ils ne constituent pas des témoins des sociétés africaines qui, à l'image d'un masque, d'une statuette, utilisée dans un cadre rituel, permettraient d'approcher les usages ou les traditions d'une population particulière. On l'a vu, ces cadeaux africains sont davantage le produit d'un processus de mise en image d'une identité nationale, de mise en scène d'une création artistique, en écho à certains codes esthétiques occidentaux. Ils nous informent tout autant sur la société du donateur que sur celle du donataire. Donc c'est présent, à l'instar des objets qui sont destinés au marché touristique, porte la trace de la négociation entre le producteur africain et le destinataire occidental, et sont de fait très facilement projetés dans ce que Sidney Kassfir, une historienne de l'art américaine, qualifie d'abysse ontologique de l'inauthentique. Et de ce premier a priori découle logiquement l'idée que ces objets ne possèdent qu'un faible intérêt esthétique, puisque les notions d'authenticité et de qualité sont indissociablement liées dans le régime de valeurs occidental. L'étude des présents démontre un travail soigné, un effort d'esthétisation poussé, mais force est de constater le fossé qui existe entre les qualités, avec les qualités que les esthètes ont promues en Occident comme le canon de l'art africain, des sculptures fortes, anciennes, marquées par l'usage et le temps, et libérées de toute influence occidentale, tant du point de vue des matériaux que du traitement plastique. Alors ce regard teinté d'ironie porté sur les cadeaux diplomatiques n'est pas propre au musée d'art. Je l'ai évoqué, le canard enchaîné a contribué à conférer au présent diplomatique un caractère sulfureux. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans les mêmes pages du journal, on va trouver aussi un discours diamétralement opposé qui va réduire les cadeaux africains à des bricoles sans valeur. Pour contrer les arguments de Valéry Giscard d'Estaing, qui avait cherché à démontrer sa moralité et sa bonne foi en expliquant avoir donné beaucoup d'objets à des musées au cours de son mandat, le journal va éplucher la revue du Louvre et des musées de France pour recenser l'ensemble des présents que le président avait donnés à des institutions depuis son accession au pouvoir. Et le journaliste va relever le don de plusieurs objets africains, dont des masques et une coupe en laiton du Cameroun, ainsi que des régalia à Caen de Côte d'Ivoire, aujourd'hui conservés au Quai Branly. La conclusion du journaliste, c'est la suivante, conclusion offensante, de ces malles si bien rangés à l'Élysée, et depuis 5 ans, le président n'a sorti pour en faire bénéficier les musées que de la camelote sans valeur, ni marchande, ni artistique. Alors dans le même esprit, alors que la première dame, Anémone Giscard d'Estaing, avait fait don quelques semaines après l'éclatement de l'affaire de plusieurs objets africains aux missions lyonnaises pour une vente de charité, le canard enchaîné va décrire les pièces en ces termes. Il s'agissait d'un vieux tam-tam en piteux état, d'une statuette sans valeur et de 2 panneaux brodés. Un an plus tard, ce bric-à-brac n'a toujours pas trouvé acquéreur. Pour s'en débarrasser, les missionnaires envisagent d'ailleurs d'en doter une tombola. Le journal ira même jusqu'à se porter acquéreur du tambour pour mieux en exhiber la modestie dans ses pages, et c'est la photo que vous avez reproduite à droite. Donc cette déconsidération des cadeaux diplomatiques africains n'est pas limitée aux seuls articles du canard enchaîné. J'ai de multiples exemples qui illustrent un certain mépris pour ce type d'objet. Un exemple parmi tant d'autres, c'est le cas des pièces qui sont passées en vente, puisque en 2008, un certain nombre de cadeaux diplomatiques offerts à François Mitterrand sont passés en vente chez Tajan, et quelques présents africains sont proposés à la vente, dont un métier à tisser, sa poulie, un buste de jeune fille en ébène. avec des estimations très basses. Hein. Pour le buste, on est à entre 60 et 90 euros. Seul un salon d'apparat en bois massif, qui avait été offert par Mobutu CC Seco, va afficher une estimation importante, 2000, 4000 euros, en raison certainement de... comment dire, du pédigré de l'objet, de sa provenance, et l'idée de s'asseoir à la place de deux chefs d'État pouvant susciter l'intérêt de certains acheteurs. Donc on peut multiplier les exemples qui vont dans ce sens-là et qui indiquent bien que ces cadeaux ne résistent pas à l'épreuve de l'authenticité qui, en Occident, va sanctionner l'intérêt d'un objet. Alors dans ce contexte, la question que je me suis posée, c'est quelles solutions expographiques sont mises en place par les institutions muséales qui en sont dépositaires. L'intégration des cadeaux diplomatiques, et en particulier des présents africains, est un exercice assez périlleux, puisque, comme je l'évoquais, un grand nombre d'objets sont parvenus en France sans aucune documentation, à l'exception de quelques pièces jointes, mais souvent assez pauvres. De plus, les présents ont suscité très peu de littérature critique qui permettrait d'explorer la pluralité des messages dont ils sont porteurs. On voit que les institutions, face à ces objets un peu mutiques, sont assez embêtées. Et je prendrai pour cela deux exemples, le musée du Septennat à Château-Chinon et le musée du président Jacques Chirac à Saron. Le musée du Septennat a été créé en 1986 pour conserver les cadeaux qui ont été offerts à François Mitterrand et est conçu avant tout comme un musée d'art décoratif qui va chercher à montrer la diversité, la préciosité des objets offerts sans forcément les rattacher à leur contexte diplomatique. Et les pièces sont organisées par grand ensemble thématique, les médailles, les décorations, les photographies. Mais ce qui est frappant, c'est que avant l'extension du musée en 1992, l'Afrique était la seule aire géographique à disposer d'un espace dédié dans le musée, regroupant l'ensemble des cadeaux qui avaient été offerts. Un espace qu'une revue qualifie de cave africaine, donc vraiment en sous-sol du bâtiment, avec cinq salles successives, basses, et qui vont jouer sur une mise en scène un peu mystérieuse. Je vous montre, vous voyez sur la première photographie, avec l'exposition d'un guerrier Bamoun et la panoplie de lances du Burundi, qui vont contribuer à instiller l'image d'une Afrique sauvage, belliqueuse, dans l'esprit du visiteur. Mais l'espace le plus frappant, c'est la salle centrale, qui est occupée aux deux tiers par un amoncellement d'artefacts et de naturalia assez hétéroclites, dont le visiteur est séparé par une cloison à claire-voie. Et à côté d'un couple de lions, d'un léopard, d'une civette, on trouve des défenses d'éléphants bruts non soclés, une rose des sables, une barre de sel, des chapeaux, des coffres, un tambour, une épée touareg. Donc l'apparent désordre de cet ensemble laisse toutefois transparaître un sens assez poussé de la scénographie, parce que le dispositif expographique ici est fondé sur l'absence totale de hiérarchie, à l'exception du couple de lions qui est mis en scène sur un haut socle, aucun élément n'émerge. Les pièces sont toutes posées sur le sol. Elles sont dépourvues également de cartels qui viendraient expliquer leur fonction, leur usage ou leur contexte d'acquisition. Et cette absence de hiérarchie s'observe aussi dans un mélange assez déroutant entre naturalia, donc animaux empaillés, défense d'éléphants, et artefacts ethnographiques, armes, chapeaux, etc. De surcroît, la cloison à claire-voie crée une mise à distance assez forte et vient placer le visiteur dans la position du spectateur de la cage au lion ou assistant à un spectacle exotique. Donc, c'est une scénographie extrêmement déroutante, d'autant plus qu'elle contraste avec beaucoup de salles du musée qui n'ont pas du tout ce type de mise en scène. Alors comment est-ce qu'on peut expliquer ce choix muséographique ? Est-ce qu'il faut y voir une volonté de rendre compte de la quantité et de la diversité des présents qui sont reçus par les chefs d'État français ? Selon moi, il s'agit plutôt de la persistance d'un certain nombre de stéréotypes qui, consciemment ou non, ont amené à cette scénographie. On a une accumulation d'artefacts et de naturalia associée à ce cadre architectural jouant sur la pénombre et les matériaux naturels qui aurait été très difficile à envisager pour une autre ère géographique. Comme le souligne Geneviève Monnier dans le catalogue du musée, le musée du Septennat offre l'occasion de rêver à des pays lointains. Et on voit que les cadeaux africains se sont prêtés parfaitement à cette relecture fantasmatique du continent comme terre mystérieuse, sauvage et dépaysante. À Saran, au musée du président Jacques Chirac, on n'a pas opté pour, lors de l'ouverture au public, pour une muséographie aussi immersive. On a un parcours beaucoup plus sobre, beaucoup plus léger. Il est signé Jean-Michel Villemotte, qui a également signé le pavillon des sessions. Donc on voit un parallèle très clair. Et au premier étage, enfin au rez-de-chaussée du musée, un certain nombre d'objets considérés comme des pièces d'exception de la collection sont présentés. Notamment le tabouret offert au président par Paul Biya, que j'évoquais tout à l'heure. Une reproduction également de la tête de reine-mère de Bénin, offerte par l'ambassadeur du Bénin en France, dont j'ai montré un exemplaire également tout à l'heure. Et puis cette statuette lobby, que vous voyez au premier plan. Donc en tout cas, ces objets qui ont bénéficié de cette promotion comptent tous parmi les formes classiques des arts africains. L'institution qui se revendique comme un musée d'histoire ou d'anthropologie politique a été assez, encline à adopter le paradigme esthétisant, sensible à travers cette promotion des arts premiers, en tout cas des pièces qui s'en rapprochent le plus. Lors des premières années de fonctionnement du musée, le musée Jacques Chirac va accueillir énormément d'expositions, enfin plusieurs expositions, organisées par le musée Barbier Muller, qui est l'une des collections les plus fameuses dans le champ des arts africains et océaniens. Dès lors, on peut se demander si la sélection des objets qui sont destinés à l'exposition permanente n'a pas visé à ne conserver que les pièces donc les plus proches du grand goût des arts premiers, comme un masque Home Bobo ou une très jolie petite statuette Bembe qui a été offerte à Jacques Chirac en 1997. Le reste des pièces africaines accessibles au public sont exposées dans la réserve visitable, qui est décrite comme une crypte, la crypte d'une église ou le trésor d'un temple grec, et qui rassemble près de 1300 objets organisés à l'image d'une réserve classique par matériaux et grand thème. Le modèle va aussi entre la galerie d'études, qui permet d'embrasser facilement la diversité des objets offerts au président, et le cabinet de curiosité ou la chambre des merveilles, par une présentation assez dense, soignée, qui vient alterner objets luxueux et souvenirs plus ordinaires. On y trouve beaucoup d'œuvres d'artisanat d'art qui sont présentées, du coffret mauritanien à la statuaire Shona du Zimbabwe. Donc, ce qui est intéressant, c'est que le musée pose un double regard sur les cadeaux africains au travers de deux modes d'exposition distincts. D'un côté, les objets les plus proches du canon des arts premiers, qui sont isolés et promus dans les salles supérieures du musée, et de l'autre, les cadeaux symboliques, ou à l'écart de ce grand goût, qui sont réunis dans la réserve visitable. Bien que le second dispositif soit plus adapté, peut-être moins choquant que le premier, on retrouve dans les deux lieux le même entassement de pièces hétéroclites, totalement déconnectées des enjeux diplomatiques, idéologiques, politiques dans lesquels elles s'inscrivent. Et de fait, les musées présidentiels sont souvent décrits dans la presse comme un, je cite, « bric-à-brac des mille et une nuits » ou une caverne d'Ali Baba. Et derrière l'accent qui est placé sur la diversité des cadeaux qui sont entreposés ou la richesse des cultures représentées, ces dispositifs ne font que conforter en fait ces visions un peu de bazar ou de chambre des merveilles. Il est intéressant de constater que cette réduction des collections de cadeaux à un assemblage hétéroclite se retrouve également en sous-texte de certaines déclarations présidentielles. En 1988, François Mitterrand déclarait ainsi, je cite, « Les chefs d'État cherchent à me faire plaisir en offrant des objets qui me transmettent certaines impressions de leur histoire ou de leur esthétique particulière. C'est pourquoi cela fait un peu bric-à-brac, car il y a de tout dans ce musée, c'est sa nature. » Et de même, en 2009, Jacques Chirac faisait également part de son point de vue ambivalent sur la valeur artistique des cadeaux qui sont aujourd'hui exposés à Saran. Je cite le président. « Les œuvres telles qu'elles sont présentées, aussi bien dans la réserve que dans le musée lui-même, sont moins des chefs-d'œuvre artistiques qui auraient leur place dans des institutions comme le Louvre ou le musée Guimet que des objets représentant divers aspects des cultures et des pays que j'ai visités. » Voilà, donc j'arrive au terme de cette présentation un peu longue, mais j'espère vous avoir montré un peu l'intérêt de ces objets et l'intérêt de mobiliser ce matériau dans la recherche. Alors, dans le cadre de cet atelier, l'histoire que j'ai essayé de suggérer peut sembler un cas marginal de translocation. On n'est pas ici dans le déplacement contraint d'objets, mais au contraire, ce sont des artefacts dont la circulation a été délibérément orchestrée par les représentants d'États souverains. Mais les processus complexes de qualification et de requalification qu'ils traversent en France, à la fois dans l'espace médiatique et dans le monde muséal, ne sont pas exempts d'une certaine violence qui révèle en creux notre appréhension étroite des arts africains en Occident, avec un regard qui disqualifie très facilement les objets qui s'écartent un peu trop du canon. Et on le voit en l'absence de documentation plus fournie sur ces objets, leur prise en charge par les musées est souvent assez maladroite, à la fois dans les discours, où on voit cette tentation documentaire très forte, qui consiste à appliquer indistinctement une grille de lecture ethnographique, donc tel masque va permettre d'illustrer les traditions culturelles baga, par exemple, mais également, dans l'exposition, un phénomène que je qualifierais d'illusion du dépaysement, en tout cas la volonté d'insister sur l'Afrique comme terre, de diversité, de richesse, terre sauvage et merveilleuse, qui vient révéler encore de puissants stéréotypes sur les sociétés du continent.